La bande du jeudi avec Raiffeisen et ses nombreux avantages Member Plus, destinés aux sociétaires et aux jeunes jusqu'à 26 ans. Raiffeisen, ouvrons la voie.
La bande du jeudi.
La bande du jeudi.
On est de retour en ce début d'année 2025, cuvée que le HC Ajoie a commencé du bon patin, avec quelques regrets quand même. 7 points ont été décrochés par nos Vouivres en 3 matchs. Nous reviendrons sur les grandes satisfactions, mais aussi sur l'amertume laissée par la défaite contre Ambry. On s'entretiendra avec notre invité du jour, véritable légende du hockey chez nos voisins français, Pierre-Édouard Belmar. On débattra aussi du vide laissé par Jerry Turkulainen et la manière de le combler avant de se projeter sur les prochaines échéances du HCA.
La bande du jeudi.
Bonjour, bienvenue dans notre chronique. Il est encore temps de vous souhaiter une très belle année à vous tous, à vous aussi messieurs. Salut Raffi, salut Julien, tous mes voeux à vous deux.
Salut Michel, salut Julien, bonne année à vous.
Salut Michel, très bonne année à tout le monde.
Et à toi aussi Pierre-Édouard, très bonne année.
Merci, bonne année à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Pierre-Édouard pour cette année 2025?
De sortir de cette dernière position, de rester en santé et de continuer à prendre du plaisir avec ma famille.
Le débrief.
C'est à toi, Julien, que revient l'honneur de noter nos ajoulots lors des 3 premiers matchs de l'année. À toi la parole.
Oui, Michel, des étoiles et une épine pour ces 3 premiers rendez-vous de l'année. Sans tarder, voici les joueurs qui ont eu ma préférence pour cette rentrée 2025. Les 3 étoiles, je les ai données à Anthony Onka, 2 étoiles à Benjamin Kons et 1 étoile décernée à Lilian Garesu, un défenseur finlandais, un gardien et un attaquant appartenant à une ligne de soutien. Ma sélection vous surprend-elle ou peut-être vous déplaît-elle, messieurs ?
Pas surpris plus que ça, j'avais pas forcément la même, mais ça se tient, on va dire.
Oh, c'est ça se tient également, ouais. Je suis un petit peu de ton avis, ouais. j'en aurais mis 2 sur les 3 que t'as mentionnés.
Anthony Onka, hein, encore lui, j'ai envie de dire, je lui en avais déjà attribué la dernière fois que j'ai conduit cette rubrique, je pourrais lui en donner 15 hein, si j'en avais l'occasion et le droit. Je reste un grand fan de l'arrière finlandais, tellement content aussi de savoir qu'il a prolongé en Ajoie. Il ne me déçoit jamais Onka, hein, qui continue d'évoluer en taille patron, ce qu'il est d'ailleurs, hein, patron, ministre de la défense. Il l'a encore prouvé ses derniers matchs, sa maîtrise, son aisance avec la rondelle, son sens du placement et sa constance font de lui le pilier essentiel de l'arrière-garde. En supériorité ou en infériorité numérique, bref, dans toutes les situations de jeu, le HCA ne peut actuellement pas se passer de Onka.
Oui, c'est un joueur pour lequel, c'est un type de joueur pour lequel on se déplace dans les patinoires, j'ai envie de dire aussi. C'est un joueur qui nous épate de seconde en seconde, qui est capable de l'étincelle à tout moment. J'adore aussi, quoi, vraiment.
Oui, j'abonde dans votre sens, quoi. Ça reste la pierre angulaire du jeu défensif du HCA Ajoie et de la relance aussi.
Pierre-Édouard, tu en as connu des défenseurs dans ta carrière. Qu'est-ce que tu penses d'Anthony Onka?
Moi, je pense qu'il est indispensable dans notre groupe. Sur la glace, sa façon de jouer, en fait, peut donner tellement d'exemples à beaucoup d'autres joueurs. La façon dont il vient dans les situations où il n'est pas stressé dans la situation, il est prêt à recevoir le contact et sortir du contact avec de la vitesse. Souvent, les joueurs essaient d'éviter ce contact alors que lui, il le montre, en fait. Il se sert du contact pour sortir de toutes les situations un peu difficiles. Après, je pense qu'il a l'étincelle qui va arriver encore plus. Je pense qu'il va commencer à être encore plus confortable. Parce que je pense qu'il, des fois, il se retient un peu où il doit se dire, il faut que j'adonne à ce joueur-là, il faut que j'adonne à ce joueur-là. Je pense qu'il y a des fois où je pense qu'il peut peut-être même le faire un peu plus tout seul. Donc, vraiment indispensable.
Le public s'y est pas trompé. Un mardi, je crois que c'est le premier joueur, en tout cas celui qui a été le plus demandé par le public à la fin du match. On poursuit directement, hein, deux étoiles à Benjamin Kons, qui vient de réaliser 2 blanchissages lors des 3 derniers matchs, hein, c'est pas rien. À Davos le 3 janvier, mardi contre Langnau. Un match mardi où je m'attendais, je dois vous l'admettre, à retrouver plutôt Damiano Ciaccio devant les filets. Le coaching staff n'en a pas décidé ainsi, preuve qu'il lui fait confiance. Énorme dans les grisons le 3 janvier, très solide mardi, un peu chanceux aussi en certaines occasions, il faut le reconnaître. Je suis content de voir que les petites douceurs offertes ici, même fin décembre, lui ont donné l'énergie nécessaire pour débuter l'année sur les chapeaux de roue. Ces 2 blanchissages lui feront assurément du bien. Lui qui nous a admis hein, ici même ne pas être totalement satisfait de sa première moitié de saison. Or certes, il en prend 4 contre Ambry dimanche dernier, mais sur ses buts, ce n'est pas à lui en tout cas que j'adresserai des reproches. Donc 2 étoiles méritées à mes yeux.
Ouais, au-delà de ces statistiques monstrueuses, je note qu'il vit actuellement sa deuxième séquence de la saison en mode short, totale confiance. Il aime aligner les matchs, Ben. Ouais. Comme il le fait ses jours, et c'est pas un hasard. Dans sa carrière, jusqu'à ses années en Brie, il a toujours été un numéro un presque indiscutable en alignant les parties. Et à l'époque, il était pratiquement jamais blessé. Donc il est dans cette configuration en ce moment, comme dans une zone de confort.
Oui, on le sent aussi hein, dans les paroles qu'il adresse quand on a l'occasion de le côtoyer aux entraînements, aux matchs. Dans l'attitude, je trouve aussi, il avance dans la cage, il dégage quelque chose dans le but. Voilà, au-delà des stats, comme tu dis, Rafi, je pense qu'actuellement, c'est vraiment gage de sécurité. Et puis, j'ai l'impression que ça dégage aussi beaucoup de choses pour la défense, pour le collectif du HC Ajoie. Je ne sais pas si tu as le même ressenti, Pierre-Edouard.
Oui, bien sûr, je pense qu'il est aussi très calme. Nos deux gardiens sont des gardiens très, très calmes, mais dans les matchs comme les deux derniers, même celui contre Ambry, moi, c'est pas... il est pour rien. C'est pas lui du tout. Du coup, les buts qu'il prend, où il est masqué, où il les voit pas, où ça vient bien coup trop vite, du coup, c'est des trucs qui te font encore plus mal quand t'es joueur, quand tu laisses ton gardien tomber comme ça un peu. Mais lui, même dans ce match-là, il est calme, compose, il a toutes les qualités que tu veux d'un gardien qui veut donner de la confiance à ta défense, donc totalement mérité.
On enchaîne une étoile à notre cher Lilian. Hein. Je tenais avant tout à mettre en lumière le très bon boulot accompli par sa ligne offensive qu'il conduit avec Louis Robin et Kevin Bozon. Une ligne de soutien, mais qui s'est mise en évidence ces derniers temps, surtout face à Ambry, peut-être même le trio que j'ai le plus apprécié de voir à l'œuvre dimanche. Alors, elle manque de réussite, hein, cette ligne, mais il y a peu de choses qu'on puisse lui reprocher. On n'oubliera pas aussi que la place de centre est une position convoitée au HCA. Lilian a su prendre sa chance depuis la blessure de Thibaut Froissart. Alors, j'aurais tout aussi bien pu citer Robin ou Bozon, hein, mais j'ai donné mon étoile à Garessu parce que je suis satisfait de son évolution cette saison. Et plus encore ces derniers matchs. Il mériterait à mon sens presque un peu plus de temps de jeu au vu de ses performances actuelles. Et puis il affiche un pourcentage tout à fait honorable aussi dans les mises en jeu, hein, avec un pourcentage qui est aussi entre 47 et 60% d'engagement remporté sur les trois derniers matchs. Maintenant, le retour de Froissart est imminent, peut-être déjà demain à Berne. Donc à voir si Ireland lui maintiendra sa confiance comme centre du troisième trio.
Oui, alors je partage l'analyse sur le trio. J'avais mis Eisen et puis j'avais mis Pedretti aussi pour le box-play et puis pour sa montée en puissance. Je trouve qu'il trouve ses marques, Marco, dans sa ligne avec les Québécois qui, voilà, on l'a beaucoup décrié aussi. Et là, je trouve qu'il commence à s'installer. Les chiffres parlent pour lui aussi. 1-2 points en 3 matchs. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas réussi à enchaîner des performances comme il l'a fait. Donc, je lui avais donné aussi une étoile à Marco Pedretti. Mais enfin, j'avais avec regret dû, on va dire, mettre de côté ce trio-là que j'ai trouvé aussi excellent. Je trouve qu'il amène de la profondeur. On les a aussi vus dangereux quand on défend haut comme ils le font, quand on met de l'agressivité et de la vitesse comme ils le font, on récupère aussi des pucks offensivement. Et il manque peut-être juste ce petit déclic avec un point, un but pour les lancer définitivement. Mais cette ligne-là fait à coup sûr un énorme bien. Elle se trouve, elle se parle. On sent qu'il y a une osmose qui se crée là autour. Et puis, elle pourrait vraiment apporter beaucoup en termes de profondeur à ce HCA.
Ouais, ben moi j'avais aussi mentionné le nom de Lilian Garessu, tu vois, on se retrouve, Julien, une fois, c'est bien. Et puis tu l'as dit, hein, il manque ce petit but dans ce tableau, mais ouais, il y a un gain en confiance qui est évident chez Lilian et chez ses acolytes de la ligne, quoi. Voilà. Et puis on a vu mardi un temps de jeu aussi plus homogène, hein, les quatre lignes ont eu beaucoup de temps de jeu aussi, hein, donc c'est aussi peut-être un signe. Hein.
Ça fait du bien, ça, Pierre-Edouard, d'avoir aussi peut-être un peu plus de temps de repos, de pouvoir s'appuyer vraiment sur quatre lignes au complet.
Je pense que c'est ça, c'est le fait de pouvoir d'appuyer les matchs qu'on a fait pour l'instant depuis que je suis arrivé, ou à la maison ou à l'extérieur, où on arrive à faire des grosses performances, on a toujours plus de deux lignes qui jouent. Après, tu n'es pas obligé d'avoir les quatre lignes qui marquent des buts, c'est très rare de réussir à avoir ça. Même si tu peux avoir les changements qu'ils ont fait, par exemple la ligne de Lilian et Boz et Louis, s'ils arrivent à faire des changements comme ça, ça non seulement repose tes joueurs qui sont censés faire le travail offensif, mais aussi ça, nous, au lieu juste de se reposer et de te retrouver à entendre un peu le banc qui panique parce que bah, défensivement, ça ne joue pas au niveau que ça doit jouer. Bah, toi, quand tu montes sur la glace, forcément, ta main du bas peut être un peu plus crispée, alors que quand là, tu peux concentrer, t'es reposé, mais à l'arrivée, t'es encore plus excité parce que tu vois Louis qui arrive à sortir le palais au bon moment, Lilian qui arrive à bloquer le shoot ou qui arrive à gagner l'engagement contre leur première ligne parce qu'il y a eu un icing, c'était un moment important, ou un forecheck où ça devait être un icing, mais t'as Boz qui bat le icing et du coup on se retrouve à la place à finir avec un powerplay. Ouais, ça, c'est peut-être pas les actions qui seront vues dans le moment des highlights où tu vois les buts marqués, mais à l'arrivée, si tu veux gagner, si tu veux être une équipe où la culture commence à être une équipe où on commence à gagner plus de matchs, t'es obligé d'avoir tes joueurs de rôle qui acceptent leur rôle. Et généralement, quand les joueurs commencent à accepter leur rôle à 100%, ça devient des joueurs où il manque juste une petite étincelle avant qu'ils en mettent 2-3.
C'est le moment de piquer, j'imagine.
Allons-y.
C'est ce que vous attendez. Money Pins, cette semaine, je l'adresse à notre cher Oula Palvé, ce qui vous paraîtra un peu raide, hein, peut-être, je ne sais pas. À peine de retour à Porrentruy et direct Money Pins, mais voilà. Il y a une ou deux choses qui ne m'ont pas forcément plu depuis la reprise de janvier, après son prêt à Genève et son escapade dans les Grisons avec Davos lors de la Coupe Spengler, où là, se retrouve désormais à devoir remplacer Jiri Turkulainen sur l'aile de la ligne de parade. Une fois encore, hein, on peut évoquer des circonstances atténuantes, hein, on reprochera mon manque d'indulgence peut-être, hein, pourtant je l'avais été avec lui lors de la dernière fois qu'on en avait parlé. Sa blessure lors de la préparation qui avait retardé son entrée en scène, sa première expérience hors du circuit finlandais, là la période d'essai est derrière, alors oui, il doit se réhabituer au dispositif à Joulot, qui plus est à une position qui n'est pas la sienne, parce que, pour rappel, c'est un joueur de centre. Il a marqué le deuxième à Davos, mais dans l'ensemble, juste son implication dans le jeu encore toujours insuffisante. Très élégant à voir patiner, oui, mais j'attends davantage, notamment en termes d'agressivité. Puis, ce qui m'a convaincu, entre guillemets, de lui donner cette épine, c'est cette scène en particulier, vous voyez peut-être laquelle je fais référence. C'est le 3-3 de dimanche face à Ambry. Ambry qui vient de sortir son gardien, il reste 2 minutes. Nettinen qui spécule un peu trop sur la rupture, Palvé trop léger dans son duel et à la bande et derrière. C'est le boulevard, hein, carrément les Champs-Élysées pour Philippe Maillet. On est revenu sur cette scène mardi en salle de presse. Hein, donc sur le moment dimanche, je n'ai pas compris comment à 6 contre 5, l'attaquant Léventin avait pu bénéficier d'autant d'espace. J'ai revu les scènes, j'ai un peu mieux compris. Mais avant de déterminer mon choix, j'ai tout de même attendu la prestation de mardi. Et disons que sans être forcément mauvais, Palvé ne m'a pas convaincu de lui enlever cette épine.
Je peux l'entendre, on va dire. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans le face-à-face. Hein. C'est vrai que l'attitude, pour l'instant, me déçoit un peu. Après, voilà, je lui laisse un temps d'adaptation. Pas facile d'être balancé à gauche, à droite. Comme on l'avait dit, il n'a pas eu sa chance. J'estime, quand Ireland est arrivé, on l'a directement, on va dire, déporté du côté de Genève sans véritablement le voir à l'œuvre. Je pense qu'il l'a quand même aussi quelque part en travers de la gorge. Et puis, ce retour peut-être va prendre un certain temps. Ça reste un joueur de qualité, à mon sens. On l'a vu sur certaines séquences. Mais c'est vrai que, voilà, le HCA doit toujours batailler avec beaucoup de cœur et à l'ouvrage, et ce n'est pas forcément sa manière première de montrer ses efforts, en tout cas ces derniers temps. Et puis, voilà. Moi, je lui aurais laissé peut-être un petit peu le bénéfice du doute et puis un temps d'adaptation. Mais sur ce qu'on a vu ces 3 derniers matchs, effectivement, il y a lieu, en tout cas, de douter de son implication.
T'es plus indulgent que moi, donc.
Voilà, un peu.
Moi, je vous comprends aussi. Après, voilà, j'en ai pas là pour le défendre aussi, mais le contexte n'est pas forcément à son avantage. Hein. On l'a quand même envoyé à Genève à un moment où le HCA joua, vivait son renouveau. Turkulainen se blesse, on le rappelle dans une position, voilà, le dit, hein, qui n'est pas sa position naturelle. Moi, à l'époque, j'aurais bien voulu le voir à l'aile et aujourd'hui, je serais plutôt pour le replacer dans une position de centre. Voilà, c'est comme ça, quoi.
Moi, c'est compliqué, forcément. Parce que,
évidemment.
Parce que non, mais. Je vois bien de quoi vous parlez. Après, moi, je ne le connais pas non plus en tant que joueur tant que ça. C'est mon 3e match. Donc, je vois peut-être l'éthique de travail sur la glace qui est un peu différente. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être qu'on lui a autorisé à jouer comme ça. Et que là, en revenant, ça ne va pas prendre très très longtemps avant que notre coach, lui, veuille changer ça. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui tourne autour des choses. Peu importe si tu es un joueur qui est top ou qui est en bas, si tu ne joues pas de la bonne façon, tu vas l'entendre. Tu prends des habitudes de jouer dans une certaine culture dans les équipes dans lesquelles tu as été. Mmh. Et des fois, en fait, tu penses peut-être te donner à 110%, mais ce n'est pas vraiment ce qui transparaît. Je pense que c'est plus une habitude. Et il y a des certains moments sur la glace où je vois bien où il n'est pas encore vraiment à l'aise à peut-être aller sortir de la boîte pour aller presser, alors que nous, ça fait des semaines et des semaines qu'on le fait. Et du coup, il se retrouve à être passif et plus attentif. Moi, je suis prêt à donner un peu de temps à ce moment-là. Mais par contre, c'est sûr que c'est à nous et je garantis que le coach est déjà là-dessus, de prendre en charge ce moment-là pour ne pas perdre une semaine, parce qu'on n'a pas ce luxe-là. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'on parle d'un joueur qui vient d'arriver, mais mis à part ça, on parle de remplacer Turku. Moi
aussi,
évidemment. Il ne faut pas abuser non plus. Moi, on ne peut pas non plus mettre un ailier naturel droitier qui a une façon de patiner assez agressive, qui est toujours le hamster, qui les gens bougent, et le comparer avec un joueur de centre qui a un patinage beaucoup plus lent mais lancé, qui lui aime plus poser le joueur, qui se retrouve à l'aile droit, qui est gaucher. Moi, je sais que je le défends, mais faut pas non plus mélanger les deux, je pense.
sur le grill.
Voilà Pierre-Edouard Belmar, c'est pas souvent qu'on a des joueurs avec une telle carrière dans notre chronique. C'est même, on peut le dire, je pense, la première fois. On va tout de même essayer de ne rien oublier ou le moins possible. On va commencer en légèreté. Pierre-Edouard Belmar, on te surnomme Pied.
En tout cas, aux États-Unis, c'est juste. Et Belly.
Ah voilà, ok. On peut choisir entre les deux. T'as donc 39 ans, aura 40 ans le 6 mars, désolé de te le rappeler.
C'est pas grave, je le sais très bien.
T'es arrivé à Port-Entry au mois de novembre, après une carrière commencée en France, poursuivie en Suède et surtout outre-Atlantique. Hein. Toi qui cumules 700 matchs de NHL, tu atterris dans notre région avec ton épouse et vos deux enfants. Alors pour faire simple, on va commencer par le début. Hein. Tu es né en banlieue parisienne, tu as quatre frères et sœurs, grandi dans une famille sportive. Hein. Maman Frédéric était chauffeur ceinture noire au karaté.
Mm-hmm. C'est deuxième ça. Dan. Voilà. Papa, le papa qui est pas mentionnable, mais lui aussi était karatéka noir deuxième dan.
Et ton frère aîné, hockeyeur, lui aussi. Hein. Mmh. Tu as d'ailleurs patiné avec lui quand vous étiez enfant, sous les mêmes couleurs, à l'OHC Viry Essen. Mmh.
Lui, il a joué pro même. Il a commencé, comme moi, le plus jeune joueur de sa génération à jouer pro.
Ça s'arrête pas là, hein, puisque ta sœur Aurore Annick fait elle aussi du hockey. Ton autre sœur, Rose Eliandre, est gymnaste, participée aux Jeux Olympiques en 2008, hein, mm-hmm. du côté de Pékin. Mm-hmm. Famille de sportifs aguerris.
Donc ma grande sœur, elle a fait de l'aérobic sportive. Elle a fait partie de l'équipe de France d'aérobic sportive, mais pas du hockey. Elle a joué au hockey, c'est grâce à ça qu'on a commencé nous au hockey. Mais elle s'est fait sortir très vite parce qu'elle ne savait pas freiner. Et hockey féminin, tu as le droit de frapper. Du coup, elle s'est servie des autres personnes pour s'arrêter. Donc
ça ne marchait pas.
Pas légal. Ma petite sœur, ouais, elle a fait les JO en gym. Et ma dernière sœur, elle aussi, a fait énormément de sport, sport-études, tout ça, mais elle, ça a été celle qui s'est arrêtée en disant « moi, je préfère faire des études ».
Et à quoi c'est dû finalement cette continuité sportive dans la famille ?
Je pense qu'on a... Ça a commencé, c'est ma maman qui a fait ça. On a une relation très difficile avec un papa qui était violent, donc le sport, ça a toujours été quelque part un endroit où on était loin de la maison. Et aussi, on a vécu dans des endroits, dans Paris, dans le 93, où c'était assez dangereux, drogue, tout ça. Et le sport nous permettait de ne pas être à la maison aussi. Donc, entre le triangle de l'école à 1 heure, la patinoire à 1 heure, ça faisait 3 heures de métro tous les jours, t'avais pas le temps de faire n'importe quoi avec les gens du quartier. Donc, dans tous les endroits où on a été, le sport a été un peu la chose qui nous a sorti de... Je peux même pas dire que j'y pensais parce que j'avais pas le temps. J'avais l'école et puis j'ai commencé le hockey, fallait très vite, on allait jouer à Nîmes, du coup, fallait prendre la voiture après l'école pour aller à Nîmes, sachant que le hockey en France, c'est pas le sport numéro 1, donc... T'as les professeurs qui en permanence te saoulent en disant « faut que t'arrêtes ce sport-là avec la canne ». Donc c'était en permanence un peu un... L'école n'était pas faite pour le hockey, donc tu faisais tes journées d'école de 8 à 5, et puis après il fallait rajouter le hockey derrière, ou la gym pour ma sœur, et du coup ça nous permettait quelque part, je pense, sans que maman s'en rende compte, de nous tenir vraiment très très loin des problèmes.
Et puis, il y a une anecdote que j'ai lue de ton histoire, finalement, que tu as été cité d'ailleurs, c'est que dans le RER, dans le métro parisien, parfois on te croyait armé avec ta canne, c'est juste ?
Ouais, mais après, c'était pas à cause de l'attentat de Bastille en 95. Donc après, il y avait le plan Vigipirate. Ça a été un des premiers plans Vigipirate. Et moi, je passais avec une crosse, mais il y avait une loi comme quoi tu n'avais pas le droit d'avoir un bâton de plus d'un mètre. Sauf que j'étais pas le seul avec la crosse, mais j'étais le seul de couleur. Donc forcément, j'étais le seul qu'on arrêtait. Donc, mais c'est les histoires de la vie et c'était toujours ça. Et puis les policiers n'avaient aucune connaissance de ce que c'était que ce bâton. Pour eux, c'était une arme. Non, et puis ma maman m'a fait bien comprendre que forcément, il faut que je comprenne les situations et la vie sociale, tout ça. Et que pour les policiers, eux, ils pensaient que j'avais une arme, pas une crosse.
On entend que tu as une enfance... marquante, on va dire. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu en gardes ? À quoi t'a servi dans cette grande carrière ? Tous tes frères et sœurs ont d'ailleurs presque réussi dans le haut niveau, d'ailleurs.
La chose la plus dure, c'est que, vu mon enfance, quand tu écoutes les experts et les documentations et tout ça, il y a de grandes chances que tu n'y arrives pas, en fait. Vu l'enfance et tout ce qui s'est passé. Et moi, à l'arrivée, je me retrouve à... J'ai des enfants maintenant et je ne veux forcément pas... qu'eux vivent ce que moi j'ai vécu. Mais à l'arrivée, la plupart de mes grandes qualités, elles sont dues à cette adversité qu'il y a eu et ces problèmes qu'il y a eu qui font que maintenant, j'ai toujours été un battant. Ma façon de me battre, ça a commencé quand j'étais tout jeune où ma maman me dit, bah, écoute, vous allez faire du hockey, mais si vous faites du hockey, par contre, vous allez vous amuser, mais c'est 120%. Hein. Parce que sinon, on peut mettre l'argent pour la bouffe sur la table. Parce que tous les fins de mois, c'était très très difficile. Donc forcément, moi, à 6 ans, mon frère, 10 ans, c'était pas bon, allez, on va pas aller à la patinoire. Non, non, c'était on va à la patinoire, on s'amuse, mais par contre, on travaille plus que tout le monde Parce que quelque part, nous, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose derrière qui était plus important que ça si on ne faisait pas bien. Donc, c'est difficile d'en parler en tant que négatif. Parce que quand j'en parle, pendant très longtemps, je n'en ai pas parlé de mon passé parce que je voyais les gens qui se tournaient les yeux avec beaucoup de pitié et tout ça. Mais la vérité, c'est que certaines de mes plus grosses qualités qui ont fait que je suis devenu Pierre-Laure Belmar et le joueur dont vous parlez, tout c'est quelque part le domino qui se sont passés avec une enfance difficile. Donc c'est dur de le voir en tant que négatif. J'ai pas vraiment de choses négatives et c'est limite à me dire des fois, si c'était à refaire, ça me dérangerait pas de reprendre les coups parce que je suis assez, moi c'est compliqué. Mais c'est aussi quelque part que peut-être après ma carrière, je pourrais aider d'autres enfants.
En tout cas, ta carrière, déjà très tôt, hein, elle prend vite du galon. Hein. Tu rejoins rapidement le centre de formation de Rouen. Saison 2002-2003, tu fais ta première apparition en Ligue Magnus. Et puis tout s'enchaîne encore très vite. Hein. 2003, premier championnat du monde junior. 2004, premier championnat du monde tout court. Mm-hmm. À Rouen, par ailleurs, tu fêtes deux titres. Et puis en 2006, départ pour Leksand en deuxième division suédoise. Qu'est-ce qui fait que tu pars en Suède, finalement ?
Honnêtement, quand on en parle comme ça, là, on pense que tout est passé comme... super vite.
Bon, on n'a pas beaucoup de temps,
non,
c'est aussi
non,
pour
non,
ça.
Non, mais la vérité, c'est que la chance que moi j'ai eue, c'est que j'ai un cerveau qui a compris qu'il fallait juste que je vais travailler. Puis, parce qu'on a dit le même refrain à plein de joueurs avant moi. Mais moi, je me suis dit, écoute, ils me disent, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Je vais faire ceci, c'est ça. Et puis le jour où on m'a donné ma chance, moi j'étais à 100%, même 150% prêt, comparément à d'autres joueurs qui, eux, étaient tentés de faire d'autres choses. Moi, quand j'étais à Rouen, ma famille vivait à Paris, donc moi, j'étais tout seul. Donc, si j'étais là, c'était pour le hockey. Du coup, je me suis concentré là-dessus. Donc, mon timing était quasiment parfait, en fait. Et puis, la Suède, ça a été plus... Je jouais avec des joueurs finlandais, puis des joueurs suédois et des joueurs canadiens dans le vestiaire. Et je devais partir, américain. Et avec mon meilleur ami, Nicolas Bèche, on devait partir en East Coast l'année d'avant. Et les joueurs canadiens nous ont expliqué comment l'East Coast se passe, tout ça... Nous, on a pris un peu peur parce qu'on avait des copines, on devait partir tous ensemble. Puis à l'arrivée, c'était oui, selon le prix que tu gagnes par semaine, tu t'en vas. Moi. Donc ça nous a refroidi. Et puis l'année d'après, c'était plus ou moins, OK, vers quel joueur dans le vestiaire tu vas le plus parler en fait ? Puis moi, c'était naturellement les Suédois. Et puis eux, c'était ceux qui jouaient aussi sur le moment le plus beau hockey. Donc moi, je n'avais pas fini d'apprendre tout ce que j'avais à apprendre en France. Mais la suite logique, c'était d'essayer de partir dans un pays où j'allais apprendre plus, en fait. J'ai signé en 2006 un contrat d'essai. On était 5 avant pour l'été, sans de la glace. C'était que de l'entraînement physique. J'étais un gringalet, j'avais 21 ans, j'étais moins bon que ceux qui avaient 18 ans pendant les tests. J'ai fait une erreur au niveau d'un programme où il fallait faire le A ou le B. Moi, je ne comprenais pas le Suédois, donc j'ai fait les deux programmes pendant 4 semaines. Je suis revenu plus ou moins gros comme une machine. J'ai fait des tests à ce moment-là, ils se sont dit, c'est incroyable, ça, son potentiel de progression. Ils m'ont re-signé à ce moment-là un contrat d'essai jusqu'en décembre en tant que 13e attaquant. Donc c'était pas.
Oui, bah après c'est par contre, après ça a bien tourné, on va dire ça comme ça du coup.
Mais et encore une fois, ça a tourné parce que je me suis retrouvé à me dire, ma petite sœur, elle s'entraîne 7 heures par jour pour aller au JO. Moi, je m'entraîne 2 heures par jour. Du coup, je revenais tous les jours et puis. J'étais tout seul en Suède, je me faisais chier, le vestiaire il était magnifique. Du coup, je repartais à la salle du muscu, je passais mon temps là-bas. Et puis petit à petit, j'ai commencé à pousser des joueurs un peu. J'ai commencé à prendre ma place. Et puis je suis devenu le joueur un peu... Puis ça a fait Rouen, un des meilleurs joueurs français. T'arrives en Suède, pire joueur de l'équipe. On repart, je vais en deuxième ligue. Je deviens un des meilleurs joueurs. J'arrive dans la ligue numéro 1. Encore une fois, 12e attaquant. Moi, ça a été plus en dents de scie que... Mais quand tu regardes sur la carrière au total, oui, tu vois une trajectoire qui est assez magnifique, mais ça n'a pas été si facile que ça.
Oui, parce qu'effectivement, la Suède a agi un peu comme un tremplin dans ta carrière, puisque c'est seulement, entre guillemets, à 29 ans hein, que tu vas en NHL. Et quelle carrière derrière hein, 700 matchs, on l'a dit, et répété dans plusieurs franchises, Philadelphie, Las Vegas, Colorado, Tampa Bay, Seattle pour terminer jusqu'à la saison passée. Pourtant donc, tu n'y es arrivé qu'à 29 ans. Outre-Atlantique, tu es considéré comme un attaquant à grande valeur défensive. Avant tout, c'est ce que tu nous rappelais en arrivant ici. Ton meilleur ratio offensif, hein, c'est tes 22 points avec Colorado. Tu t'es souvent utilisé notamment en box-play, hein, qualité technique indéniable, nous dit-on aussi parmi les spécialistes outre-Atlantique. Et puis en NHL, tu as vécu de grands moments. On ne peut évidemment pas tous les passer en revue, hein, ces 700 matchs, mais bien sûr deux finales de play-off pour la Coupe Stanley, 2018 avec Vegas, 2022 avec Tampa. Les deux fois, tu les perds malheureusement. Ces finales, tu vois le trophée passer sous le nez, entre guillemets. Les États-Unis, c'est une grande partie de ta vie, hein. Tu peux aussi te targuer d'avoir notamment une rue à Las Vegas à ton nom, c'est juste ?
Je sais pas
à ton prénom, je crois. Non, rue Pierre-Édouard, non ?
Je crois qu'il l'avait. Donc, il nous a envoyé tous. On a reçu un mémo comme quoi ils faisaient une nouvelle partie de la ville. Mais je suis pas sûr que la mairie les a acceptés, un truc comme ça. Il y a un truc qui s'est passé.
Il y a en tout cas une symbolique.
Je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'on... C'était les plans sur l'architecture, il y avait mon nom dessus, ouais.
On va aller enquêter sur place.
Ouais. Et t'as vécu Las Vegas en confinement ?
Moi, oui, mais pas par défaut, en fait. Mon confinement, moi, c'était sur Colorado. Mais vu qu'on avait la maison, on avait une maison à Vegas aussi, qui était vide, on était revenu pour passer les 2-3 mois sur Vegas, vu que la température était quand même beaucoup plus...
Voilà pourquoi. Et puis pendant toutes ces années, on a parlé de la France, de la Suède, des États-Unis. Il y a évidemment l'équipe de France aussi, mm-hmm. 11 championnats du monde quand même. T'es le capitaine actuel des Bleus, avec, on imagine, dans la tête les JO 2026 quand même, comme objectif.
Ah oui, bien sûr. Je n'ai pas besoin de mentir. S'il n'y avait pas eu la perspective des JO, j'aurais les plans avec ma femme, c'était que moi je m'arrête de travailler, qu'elle puisse commencer sa carrière. C'est vrai que c'est difficile de dire ça quand on te dit, bah écoute, physiquement tout fonctionne, tu joues bien, tout ça, mais moi, j'ai joué 13 ans en Europe avant de partir en NHL. Je suis parti en NHL à un âge où, généralement, il y a beaucoup de joueurs qui commencent à penser à la retraite. Puis après, j'ai fait 10 ans de plus. Donc, je ne m'attendais pas peut-être à être physiquement aussi stable, on va dire, dans un sens. Et aussi à me retrouver, à avoir une certaine valeur juste pour jouer dans une équipe. Donc, il y a un an de ça avec ma femme, après les blessures qu'il y a eu, après la finale, tout ça, on s'est dit, écoute, on fait une année de plus et puis... Puis si on fait pas les JO, c'est fini. S'il y a les JO, par contre, oula, va falloir que le corps réussisse à... Mais en fait, je me sens merveilleusement bien, donc c'est vraiment bizarre.
Et tu atterris donc à Porrentruy, mm-hmm. pour le plus grand bonheur de beaucoup de supporters qui nous écoutent. On imagine Porrentruy que tu connaissais déjà, tu y avais fait un saut, tu t'en souviens ?
Pas forcément, j'étais venu tous les étés.
Non, c'est pas pour ça. Tu es venu une fois à Porrentruy, avant le novembre dernier.
Non.
Si ?
À Porrentruy ?
Oui, avec un maillot bleu.
On a joué ici ?
Mm-hmm.
En quelle année ?
Tu t'en souviens pas ? Tu devrais t'en souvenir.
Je pense que le score va vite...
Ouais, 10-1, défaite 10-1, à Porrentruy, avec l'équipe de France.
Contre la Suisse ?
Contre la Suisse, ouais.
Je suis sûr que j'étais dans l'équipe, moi ?
Ouais, totalement. À l'aile du premier bloc, sauf erreur.
En quelle année ?
2009.
2009, on a joué ici ?
Ouais, bon, dans l'ancienne patinoire, hein.
Ah bah c'est pour ça, alors.
Un peu plus vétuste, un tout petit peu plus.
Ah, je m'en rappelle, mais alors pas du tout. 10-1, ça me parle pas beaucoup, on en a pris pas mal les 10-1 à ce moment-là de ma carrière, donc...
Et puis, depuis ton retour, on va se rafraîchir un peu la mémoire. T'es un joueur qui est travailleur, c'est ce qui frappe beaucoup d'autres joueurs du vestiaire. Hein. D'ailleurs, le premier jour où t'es arrivé, je me souviens encore de l'image, on t'attendait pour l'interview, jet lag, hein, monstrueux. T'étais un des derniers à quitter la glace en train de travailler tes engagements. Les premières minutes de ton arrivée à Porrentruy, on nous a dit aussi que t'étais un de ceux qui restaient le plus longtemps en salle de force, qui retournait aussi volontiers, peut-être encore plus souvent qu'un jeune de 18-20 ans. Bref, t'es un travailleur invétéré. C'est ce qui frappe aussi certains de nos auditeurs. Hein. Qu'est-ce qui t'anime, nous demande-t-on, notamment Laurent qui pose cette question, qu'est-ce qui t'anime encore ?
C'est fou parce que c'est cette mentalité, du coup, bah, c'est pas vraiment quelque chose de forcé. Moi, je suis passé par la Suède. Avant de partir en Suède, j'étais pas comme ça, mais je suis arrivé en Suède et puis on m'a fait travailler, on s'est rendu compte d'un certain potentiel physique, du coup... On m'a fait travailler plus que d'autres joueurs. C'était vraiment le truc, toi, tu viens les mercredis quand tout le monde a off, il y a deux joueurs qui vont faire une rotation et qui vont s'entraîner qu'avec toi. Donc moi, je m'entraînais tous les mercredis alors que tout le monde prenait off. Et puis, il y a eu les fruits qui sont arrivés. Je dis toujours l'anecdote de l'âne et de la carotte. Moi, chaque année, j'ai eu quelque chose qui était devant moi, qui était accessible, qui me donnait envie de sacrifier mon été pour le hockey. Et ça n'a jamais été quelque chose de difficile puisque la carotte est devenue toujours de plus en plus grosse. Après, pendant les années de ma carrière, j'ai toujours dit à ma maman, le jour où j'arrête d'apprendre, c'est fini le hockey. Parce que je ne jouerai pas pour l'argent, c'est pas comme ça. Ça va être le jour où j'arrête d'apprendre. Ce qui est marrant, c'est que je ne m'attendais pas à arriver à Port-en-Truy et puis dès le premier jour à me dire bon, mais il faut que je réapprenne ça, il faut que je réapprenne ci. Faut... Mais ça aussi, ça m'excite parce que du coup, ça veut dire que mon cerveau, il est encore là. Il est encore prêt à faire tous les sacrifices qui sont nécessaires pour y arriver. Mais ce qui est bizarre, c'est que je ne le fais pas parce que je dois être un leader ou parce que si. Non, je le fais parce que pour moi, je suis convaincu que si je ne le fais pas, je ne vais pas être assez bon pour l'équipe. Je sais que moi, demain matin, pour être bon à l'entraînement, je vais devoir arriver à la patinoire sur les coups de 8h15, que je vais mettre mon bain d'eau froid pendant 3 minutes à 7 degrés, je vais aller faire mon échauffement avant que tout le monde arrive. Quand tout le monde arrive, on va faire le meeting, et puis après, je vais faire la séance de muscu. C'est pas quelque chose qui... Ah, je me lève le matin en me disant « Ah, faut que j'aille faire ça ». Non, je sais que c'est une partie de moi. Si je veux que mon corps fonctionne, je suis obligé.
Le travail, la passion, donc, jusqu'où ça peut te mener encore d'autres plusieurs années de professionnalisme,
c'est difficile parce que là, maintenant, on se retrouve à une situation où, avec ma femme, on a dit clairement, tu t'arrêtes. Parce que ma femme, elle m'a dit, il y a des années de ça, on était tellement stupide qu'il va falloir que tu te blesses, sinon tu vas toujours trouver un moyen de réparer et de te sentir bien. Et c'était il y a quelques années de ça. Et là, je me retrouve maintenant à un âge où, généralement, on dit, bah, lui, c'est pas, il est trop vieux. Mais là, je garantis que quand j'ai signé ici, les trois quarts qui posent des questions, là, se sont dit, oh, un joueur de 39 ans, pourquoi ? Mais la vérité, elle est que j'ai encore la motivation et maintenant, ça va outre moins, plus ou moins juste être bon pour le hockey. J'ai envie aussi de montrer à mes enfants ce que tu peux faire si tu te comportes bien, si tu manges bien. Si, parce que j'ai envie de... La carrière, c'est génial, mais c'est un tiers de ma vie. Il reste une longue vie en famille. Donc, tout ce que je fais là, tous les jours, bah, c'est quelque chose qui va continuer à m'aider à vivre une longue vie bien pour ma famille.
Du coup, on a dit tout à l'heure 2026, ton grand objectif. Il y a encore plus d'une année jusque-là. Ça veut dire que potentiellement, on peut te retrouver à Port-en-Truy la saison prochaine. Tu as déjà eu des discussions dans ce sens-là ?
Jamais dire jamais. Oui, ce qui est bizarre, c'est que je vais arrêter ma carrière. À aucun moment, moi, dans ma tête, je revenais en Europe et je rejouais. Là, je reviens en Europe, je joue, les équipes appellent dans tous les sens. J'ai choisi Port-en-Truy parce que c'était juste logique pour ma famille, le français, le tout, la situation, hein, essayer de changer la culture, tout ça. Parce que je ne sais pas ce qu'on va faire l'année prochaine, parce que je n'ai jamais été dans une situation où il fallait que je signe en décembre. Moi, c'est toujours, tu attends l'été et puis tu vois l'été. Donc là, ça me paraît bizarre. Même que les joueurs me disent, tu sais, moi, j'ai déjà signé à cet endroit-là. Pour moi, ce n'est pas logique. Mais ce qui est honnête, c'est que je ne m'attendais pas à me retrouver ici avant de signer et de me dire... Je reste très bien.
Et c'est le cas.
Je vais le laisser à là, mais je ne sais pas ce qu'on va faire. Ça va être une décision en famille.
Mais le HCA aimerait te garder ?
Oui. Ouais, ça m'étonnerait qu'ils n'aimeraient pas. Ce n'est pas eux qui n'ont pas essayé de me proposer quelque chose. C'est moi qui ai dit, ça n'a rien de me proposer quelque chose pour l'instant parce que je n'ai pas la tête à ça. On est quand c'est Noël. j'ai besoin de temps, je viens d'arriver. Mais depuis, Julien était très clair avec moi depuis le départ que lui, il allait venir me parler à un moment donné pour que je reste.
Un dernier petit mot sur ton portrait, parce que les questions ont afflué par rapport à ce que tu penses de l'ambiance à Port-en-Truy, toi qui as connu les patinoires notamment de NHL, qu'est-ce que tu penses de Port-en-Truy ?
Mais ce n'est pas comparable, parce qu'à l'arrivée, ici, ça fait plus de bruit que quand tu es dans une patinoire où il y a 17 000 places, à moins que ce soit en play-off. Il y a même des patinoires en Suisse, où depuis on est allé, où je n'ai pas trouvé ça incroyable. Alors que là, quand tu es à la maison, moi, bien entendu, il a dû siffler 4 fois pour qu'on l'entende. Donc c'est ça l'ambiance, j'avais oublié à quel point c'était agréable, les copes de supporters qui font des chansons les uns contre les autres.
Et t'aimes ça, hein ?
Moi, oui. Moi, forcément. T'as besoin d'eux. Eux, ils changent le match. J'aimerais que tous nos joueurs aient la même passion, parce que si nos joueurs, si on avait tous la même passion que nos supporters, on ne serait pas ici en dernière position.
Le face-à-face.
C'est l'heure du face-à-face ? Trop pas, hein, c'est l'année passée, la dernière émission, donc je ne me souviens plus vraiment. Hein. L'occasion de revenir une fois encore sur cette grosse tuile de fin d'année. Hein. La blessure jusqu'au terme de la saison du meilleur compteur de National League. Je parle évidemment de Jari Turkulainen, remplacé dans l'alignement par Ulla Palve. Le HCA dispose actuellement de 7 joueurs importés valides. Et la question de cette semaine que je vous propose est celle-ci. Le comité Ajoulo doit-il engager un renfort étranger supplémentaire ? Michel, Raffi, comme bonne résolution pour cette nouvelle année, je souhaiterais davantage de rigueur dans le timing. 40 secondes, ouais. Je vous le rappelle, c'est le temps pour exposer vos arguments. Vous pouvez les balancer en cascade, mais soyez un peu éphémère quand même, s'il vous plaît. Et Pierre-Édouard, c'est toi qui trancheras sur la pertinence des arguments avancés par nos deux éminents spécialistes. On commence avec toi, Michel, si ça te va. Un partisan du oui, oui pour l'engagement d'un étranger supplémentaire, c'est juste ?
Oui, c'est parti, hein, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, hein, j'ai de la peine actuellement avec l'implication d'Oula Palvet. Je trouve que voilà, il n'a pas actuellement la physionomie HCA-joie de jouer avec ce cœur, ces tripes dont on a besoin. Et puis avant toute chose, j'ai envie de dire que sur le profil technique de Turkoglu, il nous faut, j'ai l'impression, à part entrée en tout cas, un ailier qui bouge, un ailier qui est technique. Et puis Palvet, il aura besoin d'adaptation. On n'a pas forcément de temps. J'ai presque envie de dire qu'on est même dans l'urgence. Si on veut rattraper les adversaires, si on veut se préparer au mieux pour un éventuel play-out, voire encore pire, un barrage. Et le bricolage, je ne suis pas forcément fan. On a actuellement, on l'a dit, plusieurs mercenaires. Brennan, pour moi, il ne compte plus parce qu'Onka est tellement fort qu'on ne peut pas le bouger. Et puis derrière, on est solide. Donc, ce ne serait pas trop d'avoir un huitième étranger valide, de qualité, à l'aile, je précise, dans le vestiaire du HC.
Merci Michel, 47, on a un léger progrès.
Donc il n'y a que le chrono qui compte là.
On compte tous les arguments.
Écoutez attentivement, c'est pas moi qui juge après, je présente. Rafi, à ton tour, non pour toi, un engagement n'est pas une nécessité.
Ouais, je vais défendre la position du non, pas de 9e étranger, parce que je pars du principe qu'avec 8 mercenaires déjà sous contrat, le HC a déjà bien pressé sur le bouton. Un 9e, oui, mais pour faire quoi? Je suis plutôt dans une optique de me dire qu'il faut donner de la confiance à Oula Palvet. On en a parlé avant, Michel également. Le remettre dans des bonnes conditions, aussi au niveau de sa confiance, mais dans l'alignement également. Aujourd'hui, avec la blessure de Jerry Turkoglainen, la donne a changé, on le sait. Ajoa doit se réajuster offensivement. Il reste moins de 2 mois jusqu'à la fin de la saison régulière. Rajouter de la concurrence dans cette dernière ligne droite, vraiment. J'oublie pas non plus que dans cette configuration, le HCA vient d'empiler 7 points en 3 matchs. Par contre, si je dis pas de 9e étranger, je ne dis pas de renfort en vue des échéances du printemps, s'il y en a. Dans ce sens, c'est vers des licences B que le HCA doit se tourner, des Suisses, mais peut-être aussi des étrangers.
Très bien, 48.
Égalité parfaite, ou presque. Voilà.
On verra égalité. Merci messieurs, Pierre-Édouard. Après avoir bien porté oreille attentive aux arguments de mes deux collègues, est-ce qu'il y en a un des deux qui t'a un peu plus convaincu?
Ouais, je pense que j'irais pour le non aussi.
Ouais.
Juste parce que l'argument du... Je comprends l'argument du oui, mais le fait de se dire qu'on n'a pas le temps de le former, si on prend un autre joueur, il va falloir le former aussi parce qu'il ne jouera pas ce système-là. Et après, d'aller chercher un joueur qui va aller récupérer les qualités de Turku, ouais, on va le trouver où ?
C'est impossible.
Donc, alors ça, c'est pas possible.
Sa façon de jouer, sa façon d'être derrière la case, sa façon... Et après, pour l'argument du non... C'est qu'on ne sait pas non plus si cette personne-là va arriver avec la bonne mentalité pour la culture de l'équipe. Donc tu peux te retrouver avec un cancer à la place, sans être méchant avec ce joueur qu'on aurait peut-être pu aller chercher, mais c'est un peu ça. J'ai joué dans trop d'équipes où tu penses rajouter la bonne personne, et puis à l'arrivée, bah, ça fait que le première ligne se retrouve en deuxième ligne, il n'est pas content, le deuxième ligne en troisième ligne en quatrième ligne, et puis tu as un joueur qui est out. Et du coup, tu te retrouves à avoir 4 groupes de joueurs qui en permanence ont quelque chose de négatif à dire. Bon, si les gens se disent oui, bah, il faut que là, il joue comme Turku, bah oui, là, c'est sûr, on est foutu, parce que c'est pas possible. Même moi, je le ferai pas, Yul ne ferait pas, il n'y a aucun de nos joueurs qui peut être Turku.
Dans l'œil de la vouivre.
C'est à moi que revient l'honneur de conduire notre fameux quiz de fin d'émission. Désolé les amis, cette semaine, pas de prix spéciaux à la Julien Bugli, tout en sobriété, mais ça sera bien aussi, vous verrez. Pierre-Édouard, je vais poser une série de questions pour la prochaine actualité du HCA Joie. On te donnera un petit temps d'avance et on le fera en toute décontraction, les amis. Hein. Alors, on va commencer par une première question qui est en relation avec le déplacement de ce vendredi à Berne. Julien, celle-là, elle est pour toi. Comment s'appelle la saucisse que l'on déguste dans les travées de la PostFinance Arena? Une saucisse que Michel nous avait servie par les mots s'entend il y a peu de temps dans une émission précédente.
Tu sais que même si je m'en souviens, je ne vais pas le dire parce que c'est imprononçable. Quoi.
Bon, voilà.
Comment ça s'appelle?
Baratipfu. Ouais, ça, c'est du suisse allemand.
Si c'est toutes les questions qu'on va me poser. Là.
Non, on se prendra le temps de la manger avant le match vendredi, cette saucisse. Revenant aux choses un petit peu plus sérieuses, Pierre-Édouard, tu peux jouer et tu peux trouver la réponse aussi. Je vous demande de me donner le nom de 2 défenseurs français qui ont joué au moins une saison ces 15 dernières années pour le compte du CP Berne. Est-ce que vous les avez? Des Français, des défenseurs français.
Un facile. Un est ton coéquipier. Facile.
Oui, mais il y a Titi, non il a
Titi, Titi, Thomas Thierry, qui a joué à Berne, oui, avant de venir ici au HCA Joie.
Et un deuxième,
Vous ne l'avez pas ?
Moi,
je n'ai
pas.
C'était au début des années 2010-2012. Formé au HC Ajoie, qui a fait une belle carrière.
Français.
Oui, qui a fait une belle carrière en Suisse, à Lausanne, à Zoug, à Zurich.
Johan Morand.
Ah, oui, il a pris il y a peut-être deux saisons.
Désolé, Yo-Yo.
Voilà. On va enchaîner samedi par la réception du HC Lugano, une équipe qui compte deux Müller dans ses rangs, mais aussi deux Peltonen. Elle est facile, celle-là. Je vous dis, je suis sympa en 2025, c'est ma résolution. Donnez-moi leur prénom à ces deux Peltonen, et aussi celui du papa.
Rien à dire. Tu veux répondre à toi ?
Non. Jesper.
Jesper, ouais. Et puis l'autre.
Papa Villet.
Papa Villet, Jesper. Et
puis l'autre, c'est pas Aro, non ? C'est pas...
Aro, c'est Tormenen.
Non, oui, oui. Je me demande s'il était pas aussi.
Moi, je ne l'ai pas, en tout cas.
Alexis, ouais, Jesper, Alexis, ouais. Qui sont des jumeaux, les deux 26 ans. Hein, voilà, et le papa vous l'avait dit, c'est Villet. On file pour la troisième question, toujours concernant Lugano. Les Tessinois se sont inclinés mardi soir à Bienne 2-1. Ils sont désormais 13e au classement avec 9 points d'avance sur Ajoie. Je vous demande le nom des 4 gardiens sous contrat pour cette saison, tout simplement à Lugano.
Uska,
oui. Adam Uska, le Slovaque.
Ouais. Niffler.
Dominique Niffler.
Schlegel.
Bien joué.
Il en manque un.
Il en manque un, oui.
Bah, ça devait être le gardien numéro 1, blessé en début de
saison. Ah oui, Van Pottelberg.
Van Pottelberg.
Van Pottelberg, ouais. Voilà. Mercredi prochain, Ajoie va filer du côté de la Sandgaller Cantonal Bank, Arena de Rapperswil. On n'a pas que de bons souvenirs là-bas. Non. Alors, arrivez-vous à me dire à quand remonte la dernière victoire du HC Ajoie sur le site des Lakers ?
Voilà. C'est si dur que ça ?
C'est si dur que ça, oui, ouais, je pense. Hein.
Est-ce que c'était durant la finale des playoffs de 2016 ? Où ils ont gagné
non, c'était quand même après. C'était quand même après, oui.
Ah, je ne sais pas, tu vas regarder avec des yeux du style, ça date...
Pour dire donc que le HC Ajoie n'a pas encore réussi à gagner à Rapperswil depuis son retour en National League. Donc ça remonte à... Voilà, c'est, vous ne l'avez pas ?
Non.
C'était le 31 janvier 2018. Hein, donc si vous comptez, ça fait...
Ah, 2018 ?
Oui, ça fait il y a près de 7 ans. 7 ans en Swiss League. Victoire au pénalty 2-1 avec des buteurs Rieser, Jonathan Eisen et Léo Fourrer. Voilà. Et si on prend le contingent de mardi, seuls deux joueurs étaient sur la glace. Phil et Johnny.
Et Johnny,
voilà. Ouais. Bon, après, les chemins sont un petit peu séparés. Rapperswil est monté en National League un petit peu plus tôt, mais oui, c'est des déplacements qui ne sont pas évidents. On arrive déjà à la cinquième question. Le HC Ajoie jouera en fait semaine prochaine, le vendredi à domicile contre Fribourg et le samedi à Lausanne. Fribourg, ça sera l'occasion de voir à l'œuvre un certain Julien Sprunger, 39 ans, depuis le 4 janvier. Bientôt un quadra, Julien, donc. Donc, on va parler des joueurs d'expérience. Je vous demande de citer le nom des 5 joueurs les plus âgés de la Ligue. C'est une drôle de question, Pierre-Edouard. Hein. Alors,
je suis pas dedans.
Et comme je suis sympa, je vous donne le nom du cinquième, hein, donc du plus jeune de ce top 5. C'est Julien Sprunger. À vous de me trouver donc 4 autres...
Les joueurs les plus vieux de la Ligue ?
Oui.
Ah, c'est une question intéressante.
Diaz ?
Non.
Il n'y a pas... Comment il s'appelle ? Amboul, il n'est pas...
Anderlecht, oui, oui, 41 ans, voilà. C'est le plus vieux. Tu as le premier, on a le cinquième. Il nous en manque encore 3.
Moi, je suis dedans.
T'es deuxième, voilà.
Est-ce que Morer est dedans ?
Non.
Il n'y a pas Hunter Sander ?
Ah ben. Alors, on cherche un Genevois et un Fribourgeois. Alors, selon les statistiques d'Elite Prospect, le Fribourgeois, c'est Ryan Gunderson et le Genevois, Marc-Antoine Pouliot.
Ah, Pouliot,
voilà, ouais, c'est tous des joueurs qui vont bientôt filer vers la quarantaine. Pour toi, c'est bientôt, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Bon, on va passer à la question numéro 6, celle réservée aux internautes. Les amis, vous ne jouez pas. Alors, lors de notre dernière émission, c'était le 12 décembre, Julien était aux commandes et il nous a fait remonter dans le temps en nous demandant de retrouver le nom du gardien qui partageait la cage d'Ambri Piotin avec Benjamin Kons et Victor Östlund. C'était lors de la saison 2020-2021. Il fallait bien évidemment donner le nom de
Damiano Ciaccio.
Damiano Ciaccio, voilà. C'est Christine de Seignelégier, que je salue au passage, qui a été tirée au sort et qui remporte un cadeau aux couleurs de la botte du jeudi. Bravo à toi, Christine. On va te contacter prochainement pour te remettre ce magnifique objet estampillé botte du jeudi. Cette semaine, c'est une question un peu plus d'actualité. Elle n'est pas difficile. Je vous demande le nom du joueur du HC Ajoie à avoir inscrit le premier but de l'année 2025. Voilà, indice, c'était donc l'ouverture du score à Davos vendredi passé. On attend vos réponses directement sur la page consacrée à la botte du jeudi, sur le site internet de RFJ, où vous retrouverez un formulaire. Vous notez votre réponse et vos coordonnées, mais aussi par mail à l'adresse bdj@lqj.ch. Là aussi, la réponse et vos coordonnées. Et on vous donnera le nom du vainqueur dans Deux semaines, c'est ça ?
Trois, même.
Dans trois semaines.
Dans trois semaines qu'on se retrouvait.
Ben, ça... Il y a des matchs de mercredi.
Il y a des matchs du mercredi, oui. Ben, en tout cas, c'est comme ça que se termine notre chronique pour cette reprise en 2025. Vous pouvez la retrouver, donc on l'a dit, hein, sur nos différentes plateformes. Merci beaucoup d'y avoir participé, Pierre-Édouard.
Merci de me recevoir.
Et je croyais qu'on avait passablement de questions à te poser d'auditeurs. Tu avais un petit mot à faire passer, je crois.
Oui, honnêtement, je voulais juste remercier tout le monde, surtout les gens de la ville qui ont été tellement... gentil envers nous, avec tellement de mots doux et d'espoir avant même que je joue mon premier match. Qu'une des raisons pour laquelle moi j'arrive à jouer de la façon dont je joue, c'est parce que quand je sais que je suis bien avec ma famille, que ma famille va bien et que tout va bien, j'arrive à être beaucoup plus performant. Et là, dans un sens, tout le monde a tellement pris soin de ma famille malgré son changement qui est assez radical. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde sur Port-Andry et puis... tous les supporters qui, depuis que je suis arrivé, me permettent de plus ou moins de surfer sur la vague.
Merci aussi à vous, Julien, Rafi.
C'était agréable.
Merci, Michel.
On se retrouve donc dans trois semaines, exactement, pour une prochaine chronique. D'ici là, bon match et à bientôt.
La bande du jeudi avec Raiffeisen et ses nombreux avantages Member Plus, destinés aux sociétaires et aux jeunes jusqu'à 26 ans. Raiffeisen, ouvrons la voie.